Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. C'est parti pour l'avant-dernier épisode de la saison 3 de Prenons un café. Cette semaine, je reçois Ophélie, créatrice des comptes Instagram Mini Coquillette et Garde tes conseils, et autrice de deux livres que je te conseille très fortement de lire, Garde tes conseils, issu de son compte Instagram du même nom, et Culpabilité ta mère, qui parle de parentalité décomplexée. Exactement tout ce que j'aime. Il y a quelques temps, Ophélie racontait sur ses réseaux l'ambivalence de sentiments qui l'envahissent depuis qu'elle a accueilli son deuxième enfant. En effet, il y a un peu plus de 3 mois, Ophélie donnait naissance à un petit garçon, 2 ans après s'être juré de ne plus jamais réitérer l'expérience de la maternité. Seulement voilà, certaines pulsions ne se contrôlent pas, et l'appel de l'utérus, comme elle le dit si bien, a été plus fort que tout. Mais alors comment prépare-t-on son premier enfant à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur? Quels sont les challenges auxquels nous faisons face au moment de devenir mère une nouvelle fois? Bien loin de donner des conseils, Ophélie raconte sans filtre cette aventure bouleversante. Tu penses être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Ophélie!
Salut Élise!
Bienvenue sur Prenons un café. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui intrigue énormément et qui pose énormément de questions chez les parents en général. Mais avant d'aborder ce sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît?
Oui, alors moi je suis Ophélie, je suis là parce que je suis maman de 2 enfants, une première qui a 2 ans et un petit deuxième qui va bientôt avoir 3 mois. Et donc je suis active sur les réseaux sociaux, connue sous le nom principalement de Garde tes conseils, ce doux nom poétique. Et j'ai un compte un peu plus perso où je parle de ma parentalité qui s'appelle Mini Coquillette. Je suis autrice de 2 livres, donc un livre sur les conseils non sollicités quand on devient parent qui s'appelle Garde tes conseils, donc qui est tiré du compte Instagram, et d'un 2e livre qui est paru au mois de mars et qui s'appelle Culpabilité ta mère, où je raconte un peu plus mon cheminement en tant que maman dans la parentalité et donc dans tout ce qu'on appelle le maternage proximal aujourd'hui, et donc tout ce que j'ai essayer de mettre en place et qui n'a pas fonctionné comme j'avais imaginé, donc le décalage qu'il y a eu entre la théorie et la pratique de ma parentalité.
Ok, top. C'est deux sujets vraiment passionnants et qui parlent énormément quand on devient parent et surtout quand on traîne un peu sur Instagram. Donc merci de les avoir écrits et de les publier. On va revenir à la genèse, je vais dire, de tout ça. Est-ce que toi, Ophélie, tu as toujours désiré être maman?
Alors pas du tout. Il y a 4 ans en arrière, si on m'avait dit que j'allais être maman un jour, je pense que j'aurais éclaté de rire, vraiment. C'était quelque chose dont j'avais pas du tout envie. Je me voyais pas maman. Et d'ailleurs, ça commençait un peu à faire peur à mon conjoint, qui lui voulait des enfants depuis très longtemps. On est ensemble depuis nos 19 ans. Et donc du coup, lui, il parlait d'enfants déjà au début de notre relation. Et moi, c'était hors de question. Jusqu'à il y a 4 ans, en fait, où notre petit neveu est né. Et ça a fait un déclic dans ma tête. Et vraiment, c'est à partir du jour de la naissance de ce petit homme que j'ai tenu dans mes bras pour la première fois le jour de sa naissance, que je me suis dit, ah mais moi aussi, en fait, je veux un bébé, absolument. Et en fait, c'est devenu une idée qui me sortait plus de la tête. Vraiment, à partir de ce jour-là, j'ai voulu un enfant.
Est-ce que tu saurais décrire ce que tu as ressenti à ce moment-là?
Ben, pas tellement. En fait, on dit toujours qu'avoir des enfants, c'est une décision rationnelle qui doit être réfléchie, tout ça. Moi, c'était vraiment un truc viscéral, quoi. J'ai l'habitude de dire que c'est mon utérus qui a décidé de mes 2 enfants, et pas mon cerveau. Alors, bien sûr, il y a eu toute une réflexion aussi de est-ce que on peut se le permettre, est-ce que c'est raisonnable d'accueillir un enfant, est-ce que, enfin voilà, tout un cheminement de réflexion, voilà. Qui se pose quand on va avoir un enfant, mais non, vraiment, là, c'était un truc est plutôt irrationnel de dire j'ai envie de sentir un enfant grandir dans mon ventre, d'avoir mon ventre qui s'arrondit, et puis de tenir un petit bébé dans mes bras. Enfin, vraiment, c'était viscéral, quoi. Vrai, ce jour où j'ai tenu mon neveu dans les bras pour la première fois, j'avais jamais porté de bébé aussi petit, mais ça m'a donné envie, comme une pulsion, d'avoir un bébé.
Et c'était vraiment le côté bébé. Enfin, tu projetais quand même ta maternité un peu plus loin, ou c'était vraiment la grossesse et le nouveau-né que tu projetais?
Non, en fait, c'était vraiment le nouveau-né que je projetais. Mais je pense que je suis encore un peu comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire que ma première fille a 2 ans. Je me projette pas du tout dans 2 ans, par exemple. Pour moi, je suis très... et ça, c'est venu de la parentalité, hein, parce qu'avant, je me projetais beaucoup. Mais depuis que je suis maman, en fait, je vis beaucoup au jour le jour. Et chaque jour, quand je me couche, je me dis, bon, jusqu'ici, ça va.
Comment tu as vécu cette grossesse? Est-ce que tu imaginais quelque chose? Est-ce que tu imaginais un idéal ou pas? Et est-ce que ça s'est avéré comme tu l'imaginais dans la réalité ou pas du tout?
Alors, j'imaginais ma première grossesse comme un moment hyper chouette, mon ventre allait s'arrondir, j'allais sentir les coups du bébé, j'allais être fraîche comme jamais, j'allais avoir des beaux cheveux, une belle peau, des ongles qui poussent bien et tout. Enfin, bon, bref. Ce qu'on décrit beaucoup dans autour de la grossesse, en fait, dans tout ce qu'on peut lire depuis qu'on est enfant. Et puis, du coup, je suis tombée enceinte et j'ai su que j'étais enceinte très très rapidement, puisque en fait on est allé chez le gynéco en lui disant bon ben en fait on aimerait avoir un bébé, est-ce qu'il y a des contrôles à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc il nous a dit bah je vais vous faire une échographie. Et donc il nous fait cette échographie et il nous dit ah ben le bébé est déjà là.
Le choc
et en même temps la joie, parce que du coup ben nous on s'était préparé en fait en se disant ben peut-être que ça mettra plusieurs années avant d'avoir un enfant. Enfin on avait dans notre entourage des personnes qui avaient attendu pendant longtemps et qui galéraient en fait à avoir un bébé, et donc du coup on était préparé à ça. Et en fait en sortant de ce rendez-vous, on s'est dit oh là là, bah attends, on va pas s'emballer parce que c'est tout neuf, donc peut-être que en fait non, peut-être qu'en fait il y a rien et que c'est pas ça. Et donc on s'est pas emballé jusque quelques jours après, en fait, où j'ai eu j'étais en rendez-vous avec un client parce que j'étais salariée à l'époque. Et là, j'ai eu une nausée hyper violente qui est arrivée d'un coup, et ça a été mon premier symptôme de grossesse. Et en fait, cette nausée m'a pas quittée pendant plus de 3 mois. J'ai perdu beaucoup de poids, j'étais coincée dans mon canapé parce que j'avais absolument plus la force de me lever. Même boire une demi-cuillère d'eau, c'était un effort qui me faisait vomir. Donc ça a été vraiment très 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 difficile. J'ai appris après que ça s'appelait l'hyperémèse gravidique. J'ai pas pu aller travailler du tout pendant le démarrage de ma grossesse parce que je tenais pas debout en fait. Quand j'en suis sortie, parce que je fais partie des femmes chez qui ça a duré seulement 3 mois, il y en a chez qui ça dure jusqu'à la fin de la grossesse, mais moi ça, j'ai eu la chance que ça dure seulement 3 mois. On va dire ça comme ça, même si c'était un moment terrible à vivre. En fait, quand j'ai pu en sortir, mon col a commencé à s'ouvrir par l'intérieur, en entonnoir, et donc du coup j'ai pas été alitée complètement, mais en fait on m'a recommandé de rester allongée pour pas que ça empire. Et donc du coup finalement j'ai passé presque toute ma grossesse allongée dans mon canapé. Ça a été très dur psychologiquement à vivre, et donc du coup j'ai détesté être enceinte. J'ai détesté cette grossesse en fait de A à Z, et j'ai pas du tout vécu la grossesse comme ce que j'avais entendu qu'on pouvait vivre pendant une grossesse. C'est pas du tout arrivé chez moi, et j'ai commencé à en parler beaucoup sur les réseaux sociaux, et je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule et que la grossesse c'était pas toujours tout rose, et qu'on ne disait pas tout en fait.
Mais donc du coup, tu découvres ça, enfin cet aspect-là de la grossesse. Tu dis, tu en parles sur les réseaux sociaux. Au niveau de ton entourage, comment c'est ? Est-ce que tu t'es sentie accompagnée ? Est-ce que tu t'es sentie entourée ou pas tellement ?
Si, je me suis sentie quand même pas mal soutenue par mon entourage. Alors les 3 premiers mois ont été très difficiles parce que ajouté au fait que j'étais malade et coincée dans mon canapé. J'étais pas enceinte en fait, puisque j'osais pas dire que j'étais enceinte et que mon gynéco me recommandait de pas le dire parce que ça faisait pas 3 mois en fait. Et du coup, j'ai vécu toute l'invisibilisation de mon premier trimestre de grossesse et ça a rajouté en fait de la difficulté à ce que j'étais en train de vivre parce que je pouvais pas dire à mes amis que j'étais enceinte. J'osais pas en fait. Donc il y avait seulement mes parents et mes beaux-parents qui étaient au courant de la grossesse parce qu'on vit à côté et parce qu'on avait quand même besoin de pouvoir en parler à quelqu'un. Mais tout le reste des personnes qu'on connaissait n'étaient pas au courant. À mon travail, pourtant je suis pas allée pendant presque 3 mois, ils étaient pas au courant. Enfin, du coup je pouvais pas en parler à mes collègues de travail. Enfin, ça a rendu assez difficile ce démarrage. Et donc là, pour le coup, les 3 premiers mois étaient compliqués. Et puis après, en fait, quand je l'ai dit à mes amis, les réactions ont été « Mais pourquoi, en fait ? Pourquoi tu nous l'as pas dit avant ? T'es allongée dans ton canapé depuis 3 mois et nous, on s'inquiète. Et en fait, on aurait pu t'aider. » Enfin, voilà. Du coup, je me suis rendu compte que c'était pas normal, en fait, d'invisibiliser cette partie de la grossesse. Surtout que les 3 mois, ils sont souvent quand même très fatigants et très compliqués à vivre. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai pas réitéré pour notre deuxième enfant. Dès qu'on a appris que j'étais enceinte, on a commencé à le dire. Et même si j'ai été encore malade d'hyperémèse gravidique pendant ma deuxième grossesse, on était beaucoup plus entourés.
Et moi, je suis assez d'accord avec toi sur ce problème qu'on rend invisible le premier trimestre de grossesse, parce que personnellement, et j'ai vécu une grossesse très facile, j'ai trouvé qu'en fait, c'était le plus difficile des 3 trimestres. Et puis, on n'est pas enceinte 6 mois, en fait. On est enceinte, une grossesse, c'est 9 mois. Sauf si tu accouches avant terme, bien sûr. Mais de manière générale, une grossesse, ça dure 9 mois et chaque trimestre est important. Moi, je trouve ça effarant de demander aux femmes et aux couples même de taire ce premier trimestre, parce que même en cas de fausse couche, tu as tellement besoin d'être entourée, en fait, parce que c'est pour ça qu'on te demande de pas le dire. C'est au cas où ça ne tiendrait pas. Ouais. Mais ça veut dire quoi que si tu vis une fausse couche, tu dois le vivre seule dans ton coin?
C'est ça, et on s'en rend bien compte, parce que même quand arrivée ma deuxième grossesse, j'ai commencé à l'annoncer du coup à ma famille. J'ai eu une réaction d'une proche de mon entourage qui m'a dit « Ah, mais dis-le pas trop, parce que si jamais il arrive quelque chose... » Oui, mais justement, si jamais il arrive quelque chose, j'ai envie que les gens soient au courant, en fait, de pourquoi je vais pas bien. Et c'était pas méchant, hein. C'est juste... c'était à l'ancienne, en fait. Comme le gynécologue qui me suivait pendant ma première grossesse, c'était un monsieur que j'ai adoré, parce que vraiment, il était formidable. Mais c'était un monsieur qui avait 74 ans. Il était à l'ancienne, quoi. Et en fait, je pense que de leur époque, ça se faisait vraiment pas. Et nous, on arrive dans une génération où on libère la parole et toutes les souffrances que les femmes ont dû vivre en silence dans les générations précédentes, nous, on a la possibilité, en fait, d'arrêter de les taire. Et donc, du coup, je trouve que c'est important, justement, de montrer que non, en fait, nous, on veut mettre le doigt sur les problèmes et on veut le dire, qu'il y a des choses qui vont pas et qu'il y a des choses à changer. C'est pas fait méchamment, toutes ces remarques qu'on a quand on est enceinte par les générations précédentes, mais ça alourdit, en fait, tout ce qui est autour des difficultés qui peuvent être liées à la parentalité et à la grossesse spécifiquement, ouais.
J'imagine que avec une grossesse que tu as détestée, tu avais hâte de donner naissance à ta fille. Est-ce que cet accouchement a été salvateur? Est-ce que tu l'as bien vécu? Et est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais?
Mon accouchement était une véritable catastrophe parce qu'en fait, on m'avait prévu un bébé qui naîtrait en avance, comme mon col commençait déjà à s'ouvrir. On m'avait dit qu'elle serait petit poids, enfin voilà, toutes les prévisions qu'on peut faire, tout ça. Puis je suis arrivée à date de terme, en fait, et l'accouchement a été déclenché par un patch qu'on appelle un patch propès, qui est posé dans le vagin, en fait, et qui provoque des fausses contractions, des contractions provoquées par voie médicamenteuse. Et du coup, ça a très bien marché sur moi. Il y a des femmes chez qui ça marche pas. Sur moi, ça a été radical, hein. Au bout de 15 minutes, j'avais déjà les premières vraies contractions qui me faisaient très très mal. Et en fait, ça a duré pendant 17 heures. Donc j'ai eu 17 heures de contractions absolument horribles, vraiment vraiment très très difficiles. Et au bout de 17 heures, on a analysé mon col à la maternité et on m'a dit il a pas bougé d'un seul centimètre. Et donc du coup, je suis arrivée à 17 heures de contractions et mon col était ouvert à 1,5, je crois. Donc pas ouvert du tout. J'avais imaginé un accouchement physio, j'avais envie d'accoucher sans péridurale, d'essayer d'accoucher sans péridurale. Au bout de 17 heures de souffrance, et vraiment c'était vraiment j'ai énormément souffert. J'ai supplié en fait qu'on me pose la péridurale même si mon col était pas ouvert parce que je pouvais pas continuer comme ça en fait. On a accepté de me poser la péridurale en disant il y a trop de souffrance, le travail avance pas, il y a des contractions mais il se passe rien. La péridurale a été posée et à partir de ce moment-là, je me suis détendue et mon col s'est ouvert. Seulement à partir du moment où la péridurale a été posée et j'ai accouché 8 heures après. Donc c'est un accouchement qui a duré 26 heures et qui a été où j'ai beaucoup souffert et du coup ça a été très difficile parce que une grossesse que j'ai détestée plus un accouchement difficile, ça du coup le démarrage de ma parentalité n'était pas du tout comme je l'avais imaginé et j'ai beaucoup pleuré en repensant à mon accouchement. Ça a été très dur à vivre d'y repenser pendant plusieurs mois. Ça a été dur pour moi et ça a été dur pour mon conjoint. Je pense qu'on n'en parle pas assez, ça aussi, que les papas, quand il y a des accouchements difficiles et qu'ils n'ont pas été préparés à ça, ils sont impuissants, en fait. Et du coup, ça a été difficile pour nous deux. Et là, moi, je me suis dit, en fait, je refais plus jamais ça. Plus jamais je veux tomber enceinte et plus jamais je veux accoucher, en fait, parce que c'est horrible. Et 15 mois après, j'étais enceinte du deuxième.
C'est fou ça. Toi, tes envies de bébé, elles viennent pas de ton cerveau, elles viennent de ton utérus. Vraiment, c'est ça, c'est une pulsion de vie qui se met
c'est
en
ça.
Toi en fait.
Il s'est passé exactement la même chose pour mon deuxième enfant. Hein. Jusqu'aux 14 mois de ma fille, je disais que je voulais pas de deuxième bébé. Moi, je me voyais très bien avec un enfant unique. J'avais pas de problème avec ça. Je me voyais déjà sans enfant au départ, donc un enfant unique, ça me posait aucun souci. Et aux 14 mois de ma fille, j'ai dit mais en fait, je veux un deuxième bébé. En fait, je veux ce deuxième enfant. Donc, il s'est passé le même processus avec mon conjoint. On a quand même réfléchi à est-ce que c'était raisonnable, est-ce que voilà. Lui, pas de problème hein, parce que lui, il se voyait très bien avec plusieurs enfants depuis plusieurs années déjà. Donc, de son côté, c'était déjà réfléchi.
La grossesse et l'accouchement l'avaient pas refroidi.
Ça l'avait pas refroidi. Je pense que en fait, du coup, il était préparé à ce que ça puisse se passer la même. Pareil, et que du coup, il savait que lui, il avait un rôle important et qu'il pouvait faire les choses autrement, pour être plus soutenant. Pas pendant la grossesse, parce que pendant la grossesse, vraiment, il a été parfait, mais du coup, on avait déjà un premier enfant à gérer, donc ça rend quand même les choses différentes. Et donc, il savait comment ça pouvait se passer, comment je pouvais souffrir, et à quel point il allait devoir jouer un rôle important pendant la grossesse pour pouvoir s'occuper de notre fille, en fait, et faire ça correctement et soulager ma fatigue et toute la souffrance qui est liée à l'hypérémèse gravidique que j'ai eu une deuxième fois, du coup. Et c'était hors de question pour lui de revivre un accouchement où il était passif. Et donc, du coup, il avait très envie de se préparer autrement à vivre un accouchement où lui aurait un rôle et où il saurait quoi faire et quoi dire.
Est-ce que tu dirais que pendant ces 15 mois du coup de maternité, enfin depuis ton accouchement jusqu'à cette envie de deuxième enfant, tu as aussi toi cheminé parce que tu as certainement appris des choses aussi sur la maternité, sur l'accouchement, sur la physiologie de l'accouchement, sur comment ça aurait pu se passer. Est-ce que ça a été quelque chose qui s'est produit
Oui,
chez toi ?
Alors du coup, mon premier accouchement m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai eu envie de savoir en fait pourquoi ça s'était passé comme ça, est-ce que c'était normal, pourquoi est-ce que j'étais déclenchée, est-ce que j'aurais pu ne pas être déclenchée, enfin tout un tas de questions auxquelles j'avais besoin d'avoir des réponses. Du coup, j'ai commencé à me renseigner, à discuter de déclenchement, de droits des femmes, de ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire, enfin voilà, ce qui était risqué, pas risqué, tout ça pendant un accouchement. Et je me suis rendu compte que mon premier accouchement aurait pu se passer autrement si j'avais eu plus de connaissances en fait que juste ce que m'avait transmis la sage-femme libérale qui me suivait à l'époque. C'était clair pour moi que si il devait y avoir un deuxième enfant, les choses seraient faites différemment pour mon accouchement. Et donc du coup, le jour où j'ai fait mon test de grossesse et où ce test de grossesse a été positif, j'ai appelé la maison de naissance la plus proche de chez nous et je leur ai demandé si je pouvais accoucher en maison de naissance. Parce que il fallait que ça se passe autrement et il fallait que je répare l'accouchement que j'avais vécu vraiment comme un ratage d'accouchement. Pour moi, c'était très dur parce que pour moi, c'est un accouchement raté et j'avais besoin que ça se passe autrement pour un peu réparer les morceaux brisés que j'avais besoin de recoller en fait suite à ce premier accouchement. Du coup, on a fait vraiment les choses différemment. On s'est beaucoup renseigné, on a eu beaucoup d'informations sur, comme tu dis, le processus de l'accouchement, comment ça se passe, comment est-ce que fonctionne le corps de la femme quand il y a un accouchement, voilà. Et ça a été génial en fait. Vraiment, la préparation a été formidable, autant de mon côté que du côté de mon conjoint. Mon conjoint qui m'a dit mais pourquoi tu veux accoucher sans péridurale? Mais attends, tu te rends compte ce que t'as vécu pour le premier accouchement? T'as supplié pour avoir la péridurale et maintenant tu veux un deuxième accouchement sans péridurale, mais qu'est-ce qui t'arrive? Du coup, j'avoue que ce projet, il l'a trouvé un peu fou au départ. Et finalement, plus la préparation avançait, et plus tous les deux, on avait hâte d'être à l'accouchement pour voir comment ça allait se passer, en fait.
On revient sur ta deuxième grossesse. On a décidé de faire cet épisode ensemble pour parler justement du deuxième. Donc, on va parler deuxième grossesse, deuxième enfant. Qu'est-ce qui diffère entre une première grossesse et une deuxième grossesse? Il y a des choses qui tout de suite sautent aux yeux, parce que moi, j'en ai vécu qu'une, tu vois. Et moi, je désire pas d'autres enfants. Tu vois, moi, l'appel de l'utérus, il est pas venu. Je sais pas s'il viendra un jour. Mais pour une mère d'un enfant unique et qui restera probablement unique, à mes yeux, moi, je vois que l'aspect négatif d'avoir un deuxième enfant, à savoir, c'est difficile de vivre une grossesse avec un autre enfant à gérer qui prend ton énergie. Ouais. C'est difficile tu peux pas être aussi présent à ta grossesse et à ton bébé que lorsque c'est le premier. Est-ce que c'est vrai ce que je pense?
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors du coup, je suis tombée enceinte et tout de suite j'ai eu des pas tout de suite mais quelques semaines après, j'ai commencé à avoir des nausées très violentes qui sont revenues, donc je savais en fait que mon hyperémèse gravidique était de retour. J'ai été hyper déstabilisée parce que je me suis vraiment dit non, mais quand même j'ai eu ça la première fois, j'aurais pas ça la deuxième fois. Et en fait j'ai appris qu'il y avait à peu près 80% de chances de récidive quand on a fait une hyperémèse gravidique à une première grossesse, pour qu'on en fasse pendant les grossesses suivantes. Donc du coup, quand c'est arrivé, j'étais vraiment désespérée. J'ai énormément pleuré, autant de souffrance que de tristesse et de culpabilité, parce que en fait j'étais incapable de m'occuper de ma fille, et donc du coup tous les jours mon combat c'était qui va s'occuper de mon enfant demain, parce que j'étais incapable de le faire en fait, parce que je pouvais pas manger, je pouvais pas me lever du canapé, enfin voilà. Et donc elle l'a pas mal vécu, parce qu'en fait elle a été gardée par on a eu un gros relais familial. Elle a beaucoup été au travail avec son papa. Enfin, ça a été des chouettes journées pour elle. Ceci dit, moi, j'avais passé quand même toute sa vie jusqu'ici avec elle, et donc du coup, ça m'a fait le choc. Il a été plus de mon côté, j'ai envie de dire, parce que d'un coup, j'avais plus ces journées avec mon enfant, pas parce que je l'avais désiré, mais parce que j'en étais incapable en fait. Et donc du coup, ça a été difficile à vivre. Et puis effectivement, on se concentre pas sur sa grossesse. Et sur l'enfant à venir, pareil, quand on a déjà un premier enfant, je crois que j'ai fait comme ce que je fais depuis le départ quand je suis parent et ce qu'on disait tout à l'heure, j'étais vraiment au jour le jour, et donc jusqu'à quelques jours ou quelques semaines avant l'arrivée de mon deuxième enfant, j'avais pas projeté du tout que vraiment il y aurait un deuxième enfant dans ma maison, quoi.
Est-ce que tu voyais, là c'est gros retour d'expérience, moi quand je dis que je veux pas d'autres enfants, on me dit que je veux pas offrir ce cadeau d'un petit frère ou d'une petite sœur à ma fille. Est-ce que toi tu voyais l'arrivée de ce deuxième enfant comme un cadeau pour ta fille, ou alors tu le sentais justement comme un acte un peu plus, entre guillemets, et je mets des gros guillemets parce que je vois pas d'autres mots, plus égoïste pour vous en fait en tant que couple?
Alors moi je l'ai vu plutôt comme la deuxième option, je l'ai pas du tout vu comme un cadeau pour ma fille, je l'ai vu comme quelque chose qu'on lui imposait alors qu'elle était encore toute petite. Un deuxième enfant, c'est jamais un choix du premier enfant. Le premier enfant, pour lui, c'est quelque chose qui arrive. C'est pas quelque chose dans lequel il a un poids de décision, hein. C'est une décision que des parents. Et donc moi, je l'ai vu vraiment comme quelque chose qu'on lui imposait et qui était difficile pour elle, parce que elle était fille unique jusqu'à là, et elle allait devoir partager ses deux parents. Et donc je le voyais vraiment comme quelque chose qu'on impose et pas comme un cadeau. Je pense que ça vient après. Encore aujourd'hui, je me dis pour l'instant, c'est pas vraiment un cadeau pour elle, parce que sa maman doit se dédoubler, parce que son papa doit se dédoubler, et parce que encore à 2 ans et 3 mois, on a des besoins d'enfants très très jeunes qu'on peut pas différer, et auxquels nous parents, on peut pas toujours répondre immédiatement, parce qu'il y a quelqu'un d'encore plus petit dans notre foyer qui a encore des besoins plus présents qu'est-ce qu'elle peut avoir. Et du coup, pour l'instant, je le vois pas comme un cadeau, mais je pense que ça viendra après. Même si elle adore, elle vit très bien l'arrivée de son petit frère. Elle adore son petit frère. Elle se lève le matin et la première chose qu'elle demande, c'est « Il est où ?» C'est trop chou parce qu'elle arrive dans la chambre et elle lui dit « Oh, mon bébé d'amour !» Elle lui fait des câlins et elle est vraiment contente de le retrouver tous les jours. Mais pour moi, il y a encore cette partie de bah, c'est difficile de se séparer en deux, surtout quand moi, je suis toute seule avec les deux enfants, pour dire « Ok, alors là... Il y a les deux qui pleurent en même temps. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle est la meilleure décision pour tout le monde, quoi?
Oui, surtout que comme tu disais, à 2 ans, c'est quand même l'autonomie n'est pas vraiment là encore. Un peu plus qu'un nouveau-né, ça c'est sûr. Mais le côté rationnel n'est pas là. Tu peux pas dire, je suis désolée, mais je dois m'occuper de ton petit frère qui a un besoin et d'expliquer avec des mots. C'est difficile, je trouve, à entendre à 2 ans.
C'est super difficile à entendre à 2 ans. Et puis, je sais pas dans quelle mesure c'est compris en plus. Comment est-ce qu'elle le comprend? J'ai pas envie qu'elle se sente rejetée face à son petit frère. Donc vraiment, il y a des situations que je trouve très compliquées à gérer au quotidien. Même si c'est effectivement beaucoup de joie d'avoir deux enfants et de voir que elle est aussi contente de voir son frère et lui il a Dieu que pour sa sœur. Quand sa sœur est dans la pièce, il est tout sourire. Mais pour moi en tant que parent, ça reste un équilibre à trouver qui est souvent un peu instable, j'ai envie de dire.
On va revenir sur ton accouchement parce que tu disais que tu souhaitais profondément que ton deuxième accouchement répare le premier. Est-ce que ça a été le cas ?
Oui, ça a été le cas parce que j'ai réussi à aller jusqu'au bout du projet d'accouchement sans péridurale et parce que ça a été une expérience qu'on n'oubliera jamais. Ça a été vraiment génial et vraiment très différent. La plus grosse différence, c'est qu'on avait le contrôle sur tout. Parce qu'on savait, on avait l'info, et du coup, on savait par quelle phase on allait passer. Ça a été vraiment un accouchement qui a aussi duré 26 heures, donc je pense que je suis programmée pour des accouchements de 26 heures, moi. Mais du coup, ça a été très long, ça a été épique, parce qu'on est parti à la maison de naissance, on a fait une nuit à la maison de naissance, au petit matin, on a été renvoyé chez nous parce que le travail n'avançait plus, on habitait à 3 quarts d'heure de voiture, donc c'était quand même une expérience, j'avais encore des contractions, mais le col s'ouvrait plus. J'ai fait la phase de désespérance chez moi, c'est mon conjoint qui a insisté pour qu'on retourne à la maison de naissance en disant « il faut qu'on y aille là parce que tu vas accoucher », parce qu'il savait en fait, il connaissait l'état dans lequel j'allais être et il savait que c'était le moment. Et donc moi j'ai géré mon corps, j'ai géré toute la partie de la naissance du bébé, de l'expulsion on va dire, et lui il a géré toute la logistique et il a fait tout ce qu'il pouvait pour me soulager. Et vraiment ça a été un travail d'équipe et ça a été une expérience incroyable.
C'est ouf parce que c'est, je crois que la seule raison pour laquelle je ferai un deuxième enfant aujourd'hui, c'est pour connaître ça. Parce que ça a l'air incroyable, un accouchement avec la physiologie respectée, ça a l'air complètement...
Alors pour le coup, du coup, moi j'ai eu les deux expériences et vraiment, s'il fallait accoucher de nouveau, ça serait sans hésiter, sans péridurale. Vraiment, sauf s'il y avait un problème médical qui contraignait, bien sûr, à une médicalisation de l'accouchement, accoucher sans péridurale, ça a été beaucoup plus facile que d'accoucher de façon médicalisée, en fait.
Tu dirais que ça s'est ressenti aussi sur ton postpartum ?
Les deux fois, mon corps a été hyper sympa en postpartum. La première fois, en fait, le premier truc qui moi m'a scotché, c'est que en fait j'ai accouché et les deux fois, presque le lendemain, j'avais le ventre plat. Les deux fois, ça m'a bluffé quoi. Je suis rentrée chez moi et bim, il y avait plus rien quoi. Et donc ça, c'est le premier truc parce que je pense que vraiment, ça aurait été difficile pour moi d'avoir un ventre rond pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc du coup, j'étais contente que la grossesse soit derrière moi et que j'ai plus besoin d'y penser du tout. J'ai jamais vécu ce qu'on dit là
le syndrome du ventre vide.
Ça, je l'ai absolument jamais vécu, tellement j'ai détesté les deux fois être enceinte. Et du coup, je me suis dit, mon corps a bien compris que je détestais la grossesse, et du coup, il fait tout pour que ça se voit plus du tout. le truc pour lequel j'ai plus soufflé les deux fois, et vraiment la première fois, j'étais presque en colère en disant mais on m'a arnaqué, on m'a pas dit, c'est les tranchées. Les contractions postpartum, elles ont été très douloureuses à l'arrivée de ma fille et hyper 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 douloureuses à l'arrivée de mon fils.
Ah oui, c'était plus
douloureux. Ouais, j'avais entendu dire pour le coup que plus on a d'enfants et plus c'est douloureux. Chez moi, ça s'est avéré vrai en fait. Et vraiment, j'ai eu très très mal. Mon premier postpartum, j'ai réussi à le gérer sans prendre de médicaments. Là, pendant presque une semaine, j'ai pris du Doliprane tous les jours parce que vraiment, j'avais vraiment très mal.
Moi, j'ai vécu ça aussi. Hein. C'était Doliprane, tu sais, parce que en plus avec l'allaitement, c'est un peu exacerbé. Et à chaque fois que je mettais ma fille au sein, je commençais par boire un grand verre d'eau, prendre un Doliprane, et après, tellement c'était.
C'est
vraiment
ça, mais en fait, en plus, moi, j'étais pas au courant. Et du coup, quand j'ai commencé à allaiter ma fille, j'ai eu cette contraction et j'ai dit au sage-femme, mais mon bébé, il est sorti là. Mais pourquoi j'ai encore ça? Et en fait, je savais pas. On m'a dit, ça s'appelle les tranchées, c'est les contractions du postpartum, c'est normal. Et c'est votre utérus qui se remet en place. Et moi, je me suis dit, mais quelle arnaque, mais pourquoi est-ce qu'on prévient pas les femmes à l'avance?
Moi, ça me rend vraiment folle qu'on dise, qu'on ose dire, tu verras, l'accouchement, ça fait mal et après, on oublie tout.
Non.
Ça me rend folle qu'on te dise ça parce que c'est tellement pas vrai. Les douleurs, limite, elles sont encore pires
non,
après.
Non, on n'oublie pas. Bien sûr, l'intensité des douleurs, le cerveau l'efface parce que c'est pas humain, en fait, de vivre un truc aussi douloureux. Qu'on accouche de façon physiologique ou pas physiologique, hein, ça fait très très mal. Et donc, le cerveau, je pense qu'il peut pas retenir cette info de douleur. Et c'est là que je dis que c'est bien fait parce que sinon en fait plus personne aurait de deuxième enfant, on s'arrêterait au premier. Mais on n'oublie pas l'état dans lequel on a été. On peut pas oublier cette phase qu'on appelle la phase de désespérance. C'est impossible pour moi d'oublier. Quand je repense à mes accouchements, je revois exactement mon état psychologique. À mes deux phases de désespérance, donc la première qui a duré 17 heures, hein, j'ai su en fait en accouchant de mon deuxième enfant que les douleurs de mon premier accouchement pendant 17 heures ont été les douleurs de la phase de désespérance d'un accouchement physiologique. Et donc non, j'oublierai jamais. J'oublierai jamais à quel point ça a été intense, ouais.
Ton fils naît après cet accouchement vraiment très chouette. Vous êtes à la maison assez rapidement. Comment se passe la rencontre entre ta fille
Alors,
et ton fils ?
En fait, ma fille, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais dormi ailleurs qu'à la maison la nuit. D'ailleurs, jusqu'à 3 mois avant mon accouchement, elle avait fait des siestes que sur son lieu de garde et jamais, par exemple, chez ses grands-parents. Et donc, du coup, ça a été une de mes principales source d'angoisse à l'approche de mon accouchement, c'est de dire et qui va garder ma fille si jamais on part en pleine nuit, si jamais il faut la coucher un soir, enfin voilà. Ça a été une des principales sources de stress. Et donc du coup, ça me rassurait de me dire j'accouche en maison de naissance, on va pouvoir rentrer à la maison rapidement. Donc j'accouche, mon deuxième enfant arrive, il est 17h. Et du coup, moi, je garde en tête 17h quand même. Le soir arrive, il va falloir aller chercher ma fille. Et donc 19h, on sort de la maison de naissance et on va chercher ma fille qui était gardée chez mes beaux-parents. On est voisins avec mes beaux-parents, donc du coup, on va la chercher et on lui présente son petit frère. On rentre à la maison, on pose le cosy de son petit frère qui était encore lui, il était encore presque dans mon ventre, quoi. Ça faisait 2 heures qu'il était sur terre. et donc, elle lui a sauté dessus. Elle était super contente de le voir. Et ça me tenait vraiment à cœur, en fait, qu'elle soit à la maison et qu'elle rentre à la maison avec nous. Et pas qu'en fait, elle arrive à la maison et que son petit frère soit déjà là. Dans ma tête, c'était hyper important. Il fallait pas qu'elle ait l'impression que son petit frère ait pris sa place pendant qu'elle était gardée ailleurs. Pour moi, il fallait que les deux enfants rentrent dans la maison en même temps. C'était symbolique.
Elle était au courant que t'étais partie donner.
Oui, parce qu'en plus, on est parti le soir. C'était le jeudi soir. J'ai commencé à avoir des contractions. Et du coup, en la couchant le soir, en lui racontant son histoire du soir, je lui ai dit, tu sais, là j'ai des contractions, j'ai l'impression que le bébé va bientôt arriver, c'est possible qu'on parte dans la nuit et que demain, quand tu te réveilles, ce soit ta mamie qui soit là et pas nous. Donc je l'avais prévenue en fait le soir, Et donc ça s'est effectivement passé comme ça, puisqu'on est parti dans la nuit et que le matin c'était sa mamie qui était là, donc elle s'est réveillée, c'était sa mamie. Et en fait, nous on est revenus de la maison de naissance quand on a été renvoyés chez nous. C'était 10h30 et donc je suis allée la voir puisqu'on est voisins avec mes beaux-parents et je lui ai dit, t'as vu, on est revenu, le bébé est pas encore sorti mais il va bientôt arriver. Et du coup, elle était au courant en fait. Quand le bébé est né, la première personne à qui on a téléphoné, c'est à elle. On a appelé mes beaux-parents et on a demandé à parler à notre fille en premier. C'était à elle qu'on voulait dire en premier que son petit frère était né. Elle connaissait pas le prénom, donc on voulait aussi lui dire le prénom de son petit frère. Voilà, donc c'est elle qui a été la première au courant. Elle a vraiment été au centre, enfin... Pour nous, elle a été hyper importante et c'était hyper important du coup de rentrer à la maison et qu'elle sache qu'elle allait avoir un bébé et que maintenant ils allaient être deux. Et c'était hyper important qu'on fasse les choses de façon naturelle et qu'on lui montre qu'elle a un rôle de grande sœur, mais que ça reste aussi notre bébé.
Comment vous l'aviez préparé justement à ce rôle de grande sœur?
Alors j'ai trouvé ça hyper difficile de préparer un enfant aussi petit parce qu'en fait elle communiquait pas encore. Hein. Elle parle très bien maintenant, mais pendant la grossesse elle parlait pas du tout, donc ça a été super difficile. Donc dès qu'on a su qu'il allait avoir un deuxième bébé, on lui en a parlé, on lui a montré mon ventre, on lui a expliqué que le ventre allait grossir, qu'il y avait un bébé dedans. On a acheté des livres qui expliquait la grossesse, qui expliquait que à un moment les parents partaient à la maternité pour pouvoir mettre au monde le bébé et qui revenaient avec un bébé et que le bébé allait rester à la maison, que c'était pas un truc temporaire, que vraiment il y aurait un bébé pour toujours avec elle. Donc on lui a lu ses livres sans forcer, c'est-à-dire que vraiment on a laissé les choses se faire naturellement, on a posé les livres dans sa bibliothèque et c'est elle qui allait les chercher quand elle avait besoin qu'on lui réexplique, qu'on relise, enfin voilà. Il y a des périodes où elle les a pas touchés pendant une semaine et il y a des périodes où plusieurs fois par jour elle allait chercher les livres, spécifiquement ces livres-là. On avait vraiment l'impression qu'elle avait besoin qu'on lui réexplique, donc on en parlait. On a essayé de lui expliquer au mieux que un bébé ça pleurait beaucoup, que un bébé il allait téter comme elle tétait quand elle était juste avant, hein, parce que je l'ai sevrée. Elle avait 19 mois, donc j'étais enceinte quand elle a été sevrée, mais que du coup le bébé il allait boire du lait au sein. Enfin voilà, on a essayé de lui expliquer plein de choses, tout en gardant en tête qu'elle était petite et que donc du coup on n'avait pas idée de ce qu'elle retiendrait ou de ce qu'elle allait comprendre. On lui a montré des copains de l'endroit où elle était gardée qui avaient aussi des petits frères ou des petites sœurs. Enfin voilà. On n'a jamais bien su ce qu'elle avait compris puisqu'elle nous l'a pas verbalisé, mais en tout cas on était assez serein, j'ai envie de dire, sur le fait de lui avoir bien expliqué ce qui allait se passer.
Est-ce que tu as ressenti cette préparation à l'arrivée de son petit frère? Est-ce que tu as ressenti justement qu'elle avait compris des choses ou alors elle a une réaction à laquelle
elle a su tout de suite que c'était son petit frère? Elle a compris tout de suite. Elle a mis un peu plus de temps à comprendre qu'il y avait plus personne dans mon ventre. Elle continuait à toucher mon ventre en disant qu'il y avait un bébé dedans. Donc ça a été un peu plus long de comprendre que non, en fait, c'était ce bébé-là qui était dedans et qu'il était sorti maintenant. Après, j'ai envie de dire, ça a été assez facile comparé à ce à quoi moi je m'attendais. Elle a été vraiment dans l'accueil du bébé. Enfin, vraiment, elle l'a très bien accueilli. Elle a été super douce avec lui tout de suite. Vraiment, ça a été des chouettes moments la journée. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'elle extériorisait toutes ses émotions la nuit. Et donc, du coup, les nuits étaient et sont toujours compliquées avec notre fille, plus qu'avec notre petit bébé, parce qu'en fait, elle extériorise beaucoup ses émotions la nuit.
Et avant la naissance, ces nuits étaient plus correctes ?
Vraiment, le sommeil est un sujet assez compliqué avec notre fille. On ne sait pas comment ça sera avec notre fils, mais avec notre fille, c'est assez compliqué. Quand je l'ai sevrée de l'allaitement, parce que j'en pouvais plus, j'étais vraiment très très fatiguée. Donc je l'ai sevrée sans me dire qu'elle allait dormir, mais en me disant que mon conjoint allait pouvoir prendre le relais la nuit. Et là, il s'est passé un truc extraordinaire, c'est-à-dire que pendant 2 mois, elle a dormi de 20h à 8h du matin, en se réveillant bien sûr parce que c'est un bébé, mais sans avoir besoin qu'on aille la voir pour se rendormir. Donc du coup, pendant 2 mois, il s'est passé ça jusqu'à un jour où elle s'est réveillée en en hurlant, sans que ce soit des terreurs nocturnes, puisque en fait, on a travaillé avec des personnes spécialisées dans le sommeil pour essayer de comprendre ce qu'elle avait. Donc, c'était pas des terreurs nocturnes, et elle se mettait à pleurer, et on avait l'impression vraiment qu'elle avait peur de se rendormir. Et donc ça a duré bien 2 mois, plusieurs heures par nuit, c'est-à-dire que parfois on était réveillé pendant 3 ou 4 heures la nuit avec un bébé qui se mettait à hurler dès qu'on éteignait la lumière pour essayer de la rendormir. Ça s'est un peu apaisé à l'arrivée de la fin de la grossesse, mais il y a toujours des réveils qui sont pas des réveils calmes, des réveils où on sent qu'il y a des émotions très fortes et avec lesquelles elle sait pas à quoi faire, quoi.
Et ça, avec parce que quand tu as un nouveau-né qui arrive à la maison, la fatigue, c'est quand même le gros sujet. Si en plus tu as la fatigue liée à ton premier enfant, comment vous avez géré, comment vous gérez en fait tout
simplement ? Alors en fait, ce qu'on a fait avant l'arrivée du bébé, c'est qu'on a changé la configuration de la chambre. Elle dormait toute seule dans sa chambre, notre fille, mais ça n'a jamais été toujours toute seule dans sa chambre. C'est-à-dire que des fois, elle nous rejoint, des fois, elle ne nous rejoint pas. Enfin, ça dépend vraiment des nuits. Et donc, du coup, on a aménagé un lit où il y a un lit de place. D'un côté, il y a le matelas de notre fille, un matelas, une place. Et de l'autre côté, il y a le matelas de notre fils. Et donc, on lui a dit, ben, tu vois, on a fait un grand lit. Il y a toujours et il y aura toujours ta place dans le lit, dans la chambre. En revanche, le bébé, il fait du bruit la nuit et c'est possible que lui, il te réveille. Et donc, du coup, on a commencé à lui expliquer ça avant l'arrivée du bébé, en lui disant, bah, ça sera peut-être mieux que tu dormes dans ton lit pour que tu sois moins fatiguée. Et en fait, à l'arrivée du bébé, ça a été très dur parce qu'elle vivait très mal les moments où le bébé pleurait. Et en fait, donc quand le bébé pleurait, elle aussi, elle se mettait à pleurer systématiquement le jour ou la nuit. Donc du coup, ça a été très compliqué à gérer. Et donc là, ben, j'ai envie de dire, on fait comme on peut, avec l'état de tout le monde, la fatigue de tout le monde. Ce qu'on a décidé de faire, nous, chez nous, c'est de jamais laisser pleurer nos enfants tout seuls. Donc, parfois, ce qui était le plus facile, c'était de mettre tout le monde dans la même chambre et de dire, bon, on se fait tous un gros câlin et même si ça va pas, même si c'est pas au top du top, on est tous ensemble et on est là et on sera là quoi qu'il arrive. Et parfois, la solution, ça a été que mon conjoint aille dormir avec elle dans sa chambre. Maintenant, le bébé a 3 mois. Pour l'instant, il dort très bien. Ma fille se réveille encore. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réaménagé sa chambre à elle en mettant un lit de place dans sa chambre à elle. Et donc, mon conjoint dort avec elle automatiquement. Et moi, je dors avec le petit bébé. Et je trouve que ça, c'est un sujet dont on ne parle pas assez non plus. Et on se rend compte, en fait, que souvent, c'est le cas quand il y a des bébés qui arrivent. Les couples ne dorment plus ensemble parce que, en fait, pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde et que tout le monde dorme... il y a des changements de lit ou de configuration de sommeil qui se produisent et donc du coup je trouve que ça reste assez tabou. Pour autant, quand on en parle sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui disent, ah ouais, chez moi aussi c'est comme ça, mon conjoint dort avec le grand, moi je dors avec le petit, ou alors il dort tout seul dans une chambre et moi je dors avec le bébé, enfin voilà. Donc il y a un peu un jeu de la chaise musicale du lit, j'ai envie de dire.
Mais oui, mais le sommeil est tellement important, c'est quand même la chose à préserver au maximum, quoi. Donc, tu trouves les choses qui fonctionnent le mieux pour que le maximum de personnes puissent dormir.
En fait. Oui, c'est un enjeu clé, le sommeil, quand on devient parent. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, quand vraiment on a passé une nuit cata, que j'ai une gueule de lave-linge. Parce que c'est, je dis toujours que c'est comme la gueule de bois, mais comme c'est comme si on était passé dans un lave-linge la nuit et que le matin on se réveille et on est encore tout froissé. C'est comme une gueule de bois, mais sans avoir besoin de boire en fait. Je crois que c'est un des trucs les plus compliqués la nuit. Il y a même des moments où moi je panique d'aller me coucher. Des périodes où c'est tellement difficile que je me dis, ah non, mais en fait, il faut vite que ce soit le matin parce que là, en fait, les nuits, c'est terrible. Et moi, j'ai pas envie d'être la nuit. J'ai envie d'être le matin. Et du coup, cette configuration de lit et de chambre, ça paraît assez anecdotique. Et finalement, nous, chez nous, on le fait automatiquement parce qu'en fait, parce qu'on a besoin de dormir et de se reposer au plus, et nos enfants aussi. Et donc, on fait ce qui est au mieux pour que tout le monde arrive à dormir, sans se poser la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va convenir pour plus tard, est-ce que non. En fait, on fait chaque nuit, on la prend comme elle vient, et chaque nuit, on essaye de se reposer au plus pour être dispo la journée et pour pouvoir travailler et gérer nos enfants au mieux, quoi.
Ouais, oui, parce qu'il y a ça aussi la journée, et que vous êtes tous les deux dans des professions hyper prenantes qui dans lesquelles le congé maternité n'existe pas spécialement,
ouais.
Et le congé deuxième
ouais,
parent non plus.
Ouais, c'est ça. Mon conjoint est à son compte, donc il est agriculteur. Hein. C'est pas une profession où on dit ah bah super, moi je laisse tout et puis je reviens dans 11 jours parce que c'est mon congé parentalité. Donc il est à son compte, et puis de toute façon quand on est à son compte, c'est toujours hyper compliqué, hein, de réussir à se forcer à prendre du temps et voilà, à arrêter de travailler complètement. Et moi, du coup, je travaille sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, j'ai différentes casquettes. Mais le congé maternité, il n'existe pas vraiment sur les réseaux sociaux. Déjà parce que si on arrête de publier sur les réseaux sociaux, on se fait flinguer nos stats et du coup, ça ne peut pas marcher. Et puis de toute façon, financièrement, j'ai dû arrêter de facturer pendant quelques temps, et on m'a proposé un congé maternité je crois qu'on m'a donné 5 € quelque chose par jour. C'est pas gérable financièrement, donc moi en fait quand j'ai appris ça, je leur ai dit mais en fait qu'est-ce que vous pensez que je vais faire avec 5 € par jour? J'ai 2 enfants à nourrir, j'ai une maison, j'ai une vie tout simplement en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec 5 € par jour? Vous en pensez quoi, vous? Et donc là, on m'a recommandé de raccourcir au maximum mon congé maternité, ce que j'ai fait. J'ai pas su si on pouvait ne pas le prendre. Je pense qu'on peut ne pas le prendre du tout et continuer à travailler.
Ça, je suis pas sûre. Je crois que t'es obligé de t'arrêter 15 jours avant ton terme et de t'arrêter 4 semaines après. Je crois que c'est le truc obligatoire.
Que, en fait, il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour les professions indépendantes. On essaye de dire aux gens que oui, c'est bien de travailler à la maison avec ses enfants, et en même temps, on leur donne pas les moyens de réussir. Et donc, du coup, je trouve que ça a été un peu dommage. Mais du coup, oui, il y a tout cet aspect qu'on a dû gérer en disant, on a un postpartum, on va faire au mieux, mais on sait que de toute façon, on doit recommencer à travailler presque le lendemain de l'accouchement, quoi.
Et ça, enfin, selon ton postpartum et selon comment tu as vécu ton accouchement, c'est pas possible pour tout le monde, en fait. C'est pas gérable quand on a la chance d'avoir un accouchement qui se passe bien et un postpartum qui se passe bien, mais qu'on prépare, parce que c'est ça aussi. Moi, j'avais beaucoup vu sur les réseaux, tu préparais vachement ton deuxième postpartum, en tout cas, avec les plats préparés à l'avance et tout ça, mais parce que t'étais informée.
C'est ça. En fait, je me suis rendu compte à mon premier postpartum que, en fait, c'était super compliqué de gérer un enfant et de manger. C'était le truc qui m'a le plus marqué, c'était que j'arrivais pas du tout à manger, en fait. J'arrivais pas à faire à manger, j'arrivais pas à avoir mes deux mains dispo pour manger, c'était super compliqué. Et donc du coup, là j'avais préparé le coup en disant on a acheté un congélateur exprès. Et j'ai beaucoup cuisiné, tant et si bien que pendant 2 mois postpartum, je n'ai pas dû faire la cuisine. Donc c'était vraiment génial. J'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps que 2 mois, parce qu'aujourd'hui mon petit va avoir 3 mois et que je trouve ça toujours compliqué de cuisiner quand il y a les 2 enfants à la maison. Ceci dit, ça a été vraiment top et j'ai pu m'alimenter correctement et pas seulement manger des pâtes à rien quand mon bébé est arrivé, parce que en plus quand on allait, on sait que c'est important de bien manger, puis on vient de vivre quand même une épreuve physique importante, j'ai envie de dire. Et du coup, le corps a besoin de récupérer. Et donc ça a été un des sujets clés de mon postpartum. On s'est organisé aussi, on a mobilisé beaucoup plus la famille que ce qu'on avait osé le faire pour la première fois. C'est-à-dire que, ben, par exemple, quand quelqu'un venait en visite, ma mère, plus particulièrement, on la faisait repartir avec les sacs de couches sales à jeter, par exemple. Ça paraît des petits trucs, ça paraît anecdotique, et finalement, la moindre petite tâche qui peut être soulagée en postpartum, ben, il faut la prendre parce que vraiment, vraiment, c'est indispensable. Plus de temps on peut passer à s'occuper de ses enfants, mieux c'est. Et du coup, ça a été une aide précieuse. Rien que d'aller mettre les couches à la poubelle, ça a été vraiment une aide précieuse parce qu'on habite à la campagne et qu'il faut y aller en voiture. Donc ça fait quand même un déplacement en moins. Récupérer un drive, par exemple, ou récupérer un colis, ça fait un déplacement en voiture en moins. Se faire livrer des courses au lieu d'aller au supermarché. Et la dernière chose qu'on a faite et qui a été enfin, qui pour moi est indispensable chez moi parce que je n'arrive pas à lâcher prise sur le rangement de la maison et le ménage, c'est de prendre une personne qui nous aide toutes les semaines à faire le ménage.
Ça, c'est un super cadeau d'ailleurs à faire en naissance, hein, parce que parfois, on demande aux jeunes parents ce qu'ils veulent comme cadeau et ils se retrouvent avec 3000 pyjamas. Alors qu'en vrai, enfin, tu peux faire appel à un organisme et offrir ça. D'ailleurs, il y a certaines boîtes de prestations de services qui proposent ce genre de prestations, la prestation cadeau de naissance.
Ouais, ben, clairement, c'est un super cadeau parce qu'en plus, ben, toutes les familles peuvent pas se le permettre. Ouais. Hein, ça coûte cher. Après, il y a des aides de la CAF qui peuvent être mises en place. Pour le coup, j'avoue que je me suis pas renseignée sur les aides qui peuvent être mises en place, mais je sais que quand on a un enfant ou plusieurs enfants ou qu'on a une grossesse ou que voilà, il peut y avoir des aides qui sont mises en place par la CAF pour avoir justement des aides. C'est pas seulement des aides ménagères. Il me semble qu'il y a des aides aussi pour garder les enfants ou emmener les enfants à l'école. Enfin voilà, ce genre de choses qui peuvent être mises en place. Et je pense que c'est intéressant de regarder si on en a des besoins. Ouais.
Pour terminer, parce qu'on va arriver à la fin de notre échange, qu'est-ce que tu retires de plus positif dans cette expérience d'avoir deux enfants et le côté le plus négatif ?
Le plus négatif, je dirais, ce que moi je vis le plus difficilement, c'est que ma fille me manque vraiment beaucoup. Pour moi, c'est très difficile en fait d'avoir très très peu de moments où je peux être seule avec elle. Et ça serait le point le plus négatif, mais je sais que ça va s'améliorer et que le bébé pour l'instant est tout petit mais qu'il va grandir et que je pourrais aussi avoir ce temps avec ma fille où je pourrais repasser du temps plus long toute seule avec elle, même si depuis le départ c'est quelque chose d'important pour moi et donc chaque jour j'arrive à prendre au moins une demi-heure à 45 minutes à être toute seule avec elle. Mais partir une après-midi par exemple faire un truc que avec ma fille, ça c'est quelque chose dont j'ai très envie et qui me manque beaucoup. Donc ça serait le point le plus négatif, le plus dur à gérer pour moi, j'ai envie de dire. Le plus positif c'est quand je vois mes enfants la façon dont mon fils regarde ma fille avec son grand sourire et la façon dont elle lui fait des bisous en lui disant mon bébé d'amour, vraiment c'est très très beau à voir.
Et enfin, dernière chose, et je sais que tu en as parlé sur les réseaux il n'y a pas très longtemps, quid d'un troisième appel de l'utérus ?
Alors, mon troisième appel de l'utérus arrivera peut-être, mais mon cerveau a décidé et clôturera cette décision. Il n'y aura pas de troisième enfant, parce que, pour plusieurs raisons, qui sont en fait que moi, je sens que je suis au bout de mes capacité émotionnelle. Je suis très vite submergée par les émotions, les bruits forts. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que je suis très vite submergée par les émotions. Et là, je sens que un troisième enfant, je pourrais pas gérer émotionnellement. Et je sens aussi que je pourrais pas donner tout ce que j'arrive là à donner à mes deux enfants. J'ai l'impression que j'arriverai pas à me diviser en trois. Pour autant, j'ai pas eu de mal à me dire, à vivre au jour le jour en me disant « ouais, il y aura deux enfants, ça va le faire ». Pour autant, un troisième enfant, il n'est pas envisageable pour moi. Et pour que mon utérus ne décide pas à la place de mon cerveau cette fois-ci, j'ai décidé de pratiquer une stérilisation définitive, donc une contraception définitive, en me ligaturant les trompes d'ici les 1 an de mon bébé.
Ouais. On pourrait presque refaire un épisode sur ce sujet parce que t'as déjà commencé.
J'ai mon premier rendez-vous lundi.
Parce que j'aimerais vraiment, moi, beaucoup connaître comment ça se passe, parce que je sais que pour beaucoup de femmes, c'est une grande difficulté d'obtenir cet accord, en fait, cette possibilité d'avoir recours à une stérilisation définitive, parce qu'apparemment, le corps médical sait mieux que toi.
Alors, je pense qu'il y a deux choses quand on... Mais alors, du coup, ouais, on pourra refaire un épisode parce que ça me paraît intéressant, mais du coup, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que... Il y a des femmes a priori qui font cette démarche et qui ensuite regrettent et je sais pas du tout quantifier, mais qui ensuite décident d'avoir un enfant et donc du coup a priori ça arrive. Je dis a priori parce qu'en fait c'est des messages que je reçois sur les réseaux sociaux qui me disent que c'est arrivé à quelqu'un de leur entourage et donc du coup je sais pas à quel point c'est vérifiable, vérifié ou véridique, mais du coup ça pourrait faire partie de la décision des médecins de ne pas le faire. Et donc là, dans ce cas-là, oui, ils se mettent à notre place en disant qu'ils savent mieux que nous ce qui va se passer ensuite dans notre vie. Et la deuxième chose, en discutant avec ma sage-femme, elle me disait qu'il y a aussi le côté ils se protègent juridiquement. C'est-à-dire que si quelqu'un regrette ensuite pour pas qu'il puisse être attaqué de quelconque manière, ils se protègent.
Bah merci, c'était vraiment très chouette. Merci pour ta transparence et cet échange que j'ai beaucoup apprécié. J'ai adoré te rencontrer, donc merci pour ça. Si on veut te suivre, si on veut te retrouver, par où ça se passe ?
Eh ben, sur les réseaux sociaux, du coup, mes deux comptes, c'est Garde tes conseils tout attaché ou Mini Coquillette.
J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour le dernier épisode de la saison 3. Un épisode très spécial, alors abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne pas le manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.